Bonjour à tout le monde. Voilà, en fait, c'est bien dans le genre de Fabrice de passer tellement de temps à me présenter que je comprends qu'il ne me reste plus de temps pour vous parler. Mais je vais quand même vous dire, à la manière du pape François, bonsoir. Puis je pourrais rentrer, mais je ne suis pas le pape et donc je vais être quand même un petit peu plus long. Et vous connaissez aussi les talents de clown de Fabrice et notamment cette petite plaisanterie qui consiste à mettre un pupitre très très haut. Que je ne puisse pas lire. Mais du coup, je crois que. Ah ben, très bien, parfait. J'allais dire, je vais vous parler avec mon cœur, ça sera peut-être plus intéressant que si je vous parlais avec mes notes. J'allais dire qu'il a aussi de l'humour en mettant comme titre à ma conférence Pourquoi le christianisme fait scandale? Parce que depuis le temps que mon livre est paru, il m'arrive de rencontrer des groupes auxquels je parle de ce livre, et on me dit, mais pourquoi un tel titre, le christianisme ne fait plus scandale, tout le monde s'en moque complètement dans notre société. Je crois que le christianisme, heureusement, fait scandale, mais il y a une petite ambiguïté sur les mots. Il fait scandale depuis le début. Il suffit de voir l'attitude des disciples en bien des occasions, il suffit de voir l'attitude des Grecs à Athènes, quand Saint Paul vient leur parler de cette histoire de Jésus mort et ressuscité, et comment il lui propose de l'écouter là-dessus une autre fois. Donc le christianisme, oui, fait scandale. Il fait scandale depuis toujours, et le scandale, c'est qu'à un certain moment, peut-être, il a cessé de scandaliser les chrétiens eux-mêmes et de nous scandaliser nous-mêmes. Et la grande joie, le caractère unique de cette époque, c'est qu'on redécouvre, bien sûr, nous ne sommes pas les premiers. Bien sûr, il y a 2000 ans d'histoire magnifique du christianisme, mais on redécouvre à quel point cette force du scandale du christianisme, du message de l'évangile, est une force aujourd'hui actuelle, vivante. Et on redécouvre ça à un moment très particulier de notre histoire. Et ce moment particulier, c'est le moment où on peut dire, et je vous le dis très tranquillement ce soir, le christianisme est mort. Le christianisme, c'est fini. Alors ne faites pas cette tête consternée, parce que c'est une très bonne nouvelle. Je n'aurais pas eu le culot de venir vous le dire si je ne pensais pas que c'était une bonne nouvelle. Ce qui est mort, c'est le christianisme comme force centrale de la culture occidentale. Ce qui est mort, c'est le christianisme comme pouvoir, comme organisation, comme norme au centre de notre culture. C'est fini et ça ne reviendra pas. Il y a évidemment, nous avons tous la tentation d'une forme de nostalgie. Avant, autrefois, est-ce qu'on va y revenir? Est-ce qu'on va regagner du terrain perdu? Vous savez, cette tyrannie du quantitatif qui est dans notre société. Est-ce que nous allons regagner des parts de marché? Non, nous n'allons pas regagner des parts de marché. Le christianisme est mort comme pouvoir dans la société. Alors, je ne dis pas que le christianisme comme pouvoir n'a pas construit des belles choses, évidemment. Et nous en sommes tous les bénéficiaires, moi le premier. Mais ce que je veux dire, c'est que les conditions dans lesquelles évoluent les cultures occidentales ont tellement changé que la position même du christianisme dans la société est de nature totalement différente. Autrefois, le christianisme était au centre, aujourd'hui, il est aux marges. Et cette situation de marginalité culturelle du christianisme, c'est ça la chance de l'évangélisation aujourd'hui. C'est à partir des marges que l'on peut annoncer l'évangile. Et ça tombe bien parce que c'est par là que tout a commencé. Et c'est comme ça que je me suis intéressé à une notion qui est une notion apparemment très, très éloignée de la foi chrétienne, qui est celle de contre-culture. Je me suis posé une question toute bête, puisque le christianisme n'est plus au centre, qu'est-ce qu'il y a donc au centre de notre culture? Et un petit retour en arrière permet de s'apercevoir que ce qu'il y a au centre de la culture occidentale, de manière absolument tellement évidente d'ailleurs que, il ne faut surtout pas le dire et surtout pas le voir, ce sont les contre-cultures des années 60. Ce mouvement de transformation radicale de société figée, de la société de consommation qui était en train de naître, ce mouvement a extraordinairement bien réussi. Les contre-cultures, c'est quoi? Ce sont des petits groupes de doux rêveurs qui font un pas de côté parce qu'ils trouvent que la société leur pèse trop, parce qu'ils trouvent que la société de consommation qui est en train de naître n'est pas une société de l'épanouissement individuel, qui font un pas de côté pour essayer d'inventer autre chose. Et ces communautés marginales, aux États-Unis, en Angleterre, en France, en Suisse, ces communautés marginales ont extrêmement bien réussi puisque tous les rapports sociaux ont été transformés. Et ce n'est pas nécessairement d'ailleurs toujours quelque chose de négatif, loin s'en faut. Je prendrai quelques exemples. La famille, les rapports entre les hommes et les femmes, les rapports entre les parents et les enfants sont aujourd'hui complètement transformés. En tout cas, moi, je peux le voir quand je discute avec mes enfants. Les rapports avec les enfants ne sont plus du tout les mêmes que ceux des générations précédentes. Les rapports sont devenus beaucoup plus horizontaux, beaucoup moins hiérarchiques. Transformation de la famille, transformation des productions culturelles, c'est ce mouvement qui a produit l'essentiel de ce qui est apparu sur la scène culturelle au cours des 50 dernières années, transformation de la politique, transformation de la sexualité, transformation des valeurs. Et l'origine de ce mouvement, encore une fois, c'est une utopie, un refus d'aller vers la société de consommation qui était en train de se construire. Or, ce qui s'est produit, c'est que ce mouvement a tellement bien réussi, il a tellement bien transformé la société, qu'il a produit exactement le contraire de ce qu'il pensait produire. Il a produit une accélération de la société de consommation, il a produit une accélération de la marchandisation des corps, la marchandisation des cœurs, la marchandisation générale, je dirais, du corps humain. On pourrait prendre deux exemples qui sont des exemples d'une évidente actualité. On pourrait dire que aujourd'hui, le débat sur le mariage gay, qui est, comme vous le savez, actuellement très vif en France, ou la question du suicide assisté. Ce sont deux débats qui résultent directement de cette transformation des sociétés par les contre-cultures. Ces sociétés, ce mouvement a réussi à émanciper l'individu de la force de la loi et à retourner la notion même de loi. On est passé d'un consensus autour de la loi qui devait définir le permis et l'interdit à une nouvelle culture dans laquelle le rôle de la loi, c'est d'accompagner les demandes individuelles. Récemment, j'avais l'occasion de discuter de cette question avec la ministre française de la Santé, et je lui posais des questions autour des grands enjeux de bioéthique. Et je lui ai demandé si elle ne pensait pas quand même qu'à un moment donné, la légalisation de l'euthanasie, la recherche sur l'embryon, pouvait poser des questions éthiques. Elle m'a regardé extrêmement étonné. Elle m'a dit, mais vous n'y êtes pas du tout. Ce n'est pas du tout le rôle de la politique. Le rôle de la politique, c'est d'accompagner les demandes de la société. Et c'est l'aboutissement le plus logique de ce mouvement d'émancipation de l'individu. Ce n'était pas le projet initial, mais c'est un aboutissement, somme toute, assez logique. C'est la preuve du succès de ce mouvement. Et je dirais de la tragédie, au fond, que représente cette trajectoire historique. Au fond, cette aventure se réduit à deux mots. Je vais être peut-être un petit peu caricatural. Si vous n'êtes pas d'accord, vous me le direz. Jouissez et disparaissez. Ce qui est assez dur, parce que cet impératif-là n'est pas moins tyrannique que les impératifs dont on a voulu se débarrasser. Excusez-moi, je vous le dis peut-être assez brutalement. Le débat sur le mariage gay illustre bien cette transformation de la culture, le passage d'une société dans laquelle la loi dit le permis est l'interdit, à une situation dans laquelle la loi est là pour reconnaître les demandes individuelles. À partir du moment où la demande existe, de quel droit, vous dit-on, allez-vous dire non? puisque c'est mon choix, vous faites un autre choix, vous n'avez pas à me dicter mon choix individuel. La même chose, exactement la même chose, est à l'œuvre pour la fin de la vie, conquête de l'ultime liberté, selon l'expression employée par ses partisans. Donc voilà l'évolution globale de ces sociétés. Alors, je voudrais faire une petite remarque sur la façon dont on pourrait caractériser cette culture-là. Moi, j'appelais ça le marché. Alors, le marché, c'est une expression qui a peut-être, j'y mets une majuscule pour montrer le caractère divin de cette instance, ou en tout cas sacré. Le marché, c'est un état de la culture dans lequel l'individu est radicalement libre. Il n'a plus, il n'admet plus aucune norme, aucune autorité, que ce soit l'autorité de la politique, que ce soit l'autorité de la religion, que ce soit même l'autorité de la science, que ce soit l'autorité de la culture. Il n'admet plus aucune forme d'autorité. Il est sa propre norme et tout peut s'acheter ou se vendre. Le débat sur les mères porteuses est typiquement l'incarnation de cette société dans laquelle le marché, c'est-à-dire une instance toute puissante qui n'admet pas la régulation, laisse agir des individus seuls, mais en fait, une fois qu'on les laisse agir, en fait, ils ne sont plus libres, c'est toute la ruse, hein, ils sont obligés d'agir. Récemment, dans un débat à la télévision française, on nous présentait un téléfilm sur les mères porteuses, puis à la fin du téléfilm, il y avait un débat où étaient invités évidemment uniquement des partisans de la légalisation des mères porteuses, et ceci expliquait que les femmes de ménage, ça existe, les nounous, ça existe, et donc les nounous prénatales, ça peut exister aussi. Les nounous prénatales, c'est une femme, la nounou prénatale, c'est une femme qui dont le métier est de porter l'enfant, simplement il n'est pas encore né, mais ça ne change pas grand chose. C'est juste un métier comme un autre. Voilà ce que j'appelle le marché, c'est-à-dire une machine qui finalement arrive à atteindre des sanctuaires qui jusqu'à présent échappaient à la sphère du rapport économique. Alors, vous comprenez bien que je ne suis pas en train de faire une critique du marché comme système économique. Ce que je veux dire, c'est un système qui n'admet plus de normes. Et c'est pour ça, d'ailleurs, que la crise qu'on traverse n'est pas seulement une crise économique, n'est pas seulement une crise environnementale, n'est pas seulement une crise culturelle, c'est une crise globale, en fait, de la culture occidentale. Cette crise, c'est la crise du marché comme autorité unique, en fait. Il n'y a plus aujourd'hui que l'individu et le marché. Alors, heureusement, il y a encore quelques petites nuances à apporter à ce tableau. Eh bien, c'est là qu'on retrouve le christianisme. C'est là qu'on va retrouver le christianisme, parce que je pense qu'aujourd'hui, le christianisme est la seule force critique globale de cette évolution de la culture occidentale. Et c'est la raison pour laquelle, d'ailleurs, le christianisme fait à nouveau scandale. C'est la raison pour laquelle on essaie, de manière assez systématique, de discréditer la parole des chrétiens. Mais c'est la raison pour laquelle on a absolument besoin de la foi chrétienne pour, je dirais, non seulement, non pas revenir, je vous l'ai dit, à la situation antérieure, mais véritablement sauver la culture occidentale. Je pense que la position aujourd'hui de marginalité des chrétiens, c'est celle que Benoît XVI a évoquée lors d'une visite dans le pays le plus... un des pays les plus déchristianisés d'Europe, qui est la République tchèque. Et c'est en allant en République tchèque que Benoît XVI a parlé de minorité créative. C'est une expression qui était, que je trouve extrêmement forte, dans la mesure où il n'a pas parlé de minorité conservatrice. Il n'a pas dit que le rôle des derniers chrétiens, que peut-être nous pensons être à certains moments, est de sauver ce qui peut l'être. Non, le christianisme est mort. Le christianisme en tant que ruine ne nous intéresse pas. Le christianisme comme, résidu de sa splendeur passée n'a pas grand intérêt. Le christianisme comme musée est intéressant comme musée, mais il s'agit d'autres choses. Le pape Benoît XVI a parlé de minorité créative. Minorité, il a pris acte de la condition de marginalité des chrétiens dans la société occidentale. Et plus vite on en prendra acte, mieux ce sera, plutôt que de s'accrocher aux résidus de la puissance. Mais créative. Alors, créative, entendons-nous bien, ça ne veut pas dire qu'il s'agit de réinventer les formes du christianisme, ça ne veut pas dire qu'il faut réinventer la foi chrétienne, qu'il faut réécrire le credo. Évidemment, il ne s'agit absolument pas de ça. Minorité créative, on pourrait dire minorité prophétique, c'est-à-dire que les chrétiens, dans leurs conditions de marginalité, voient plus loin que le petit bout du nez. Disons, il voit plus loin que l'ensemble de la société. Cette capacité à voir plus loin, c'est ça que le christianisme peut apporter dans notre société. Et c'est évidemment de ça qu'on ne veut pas entendre. On ne veut pas entendre parler du christianisme comme une force tournée vers le futur. Et c'est pour ça que constamment, on nous réduit au passé du christianisme. Évidemment, au passé négatif. C'est pour ça que constamment, on est renvoyé à ce fantasme d'un christianisme qui contrôlerait la culture occidentale. Évidemment, tant qu'on fait semblant de penser que l'Église a le pouvoir dans nos sociétés, ça arrange tout le monde. Ça arrange les chrétiens qui peuvent se bercer d'illusions, et ça arrange aussi ceux qui peuvent dire « Attendez, vous occupez trop de place encore, occupez-en donc encore moins. » Mais soyons suffisamment enthousiastes, soyons suffisamment lucides et enthousiastes pour nous rendre compte que cette marginalité nous donne les clés du futur, tout simplement. Alors il y a un certain nombre de conditions, évidemment, si l'on veut être entendu dans cette critique de la société ultralibéral, pour le dire avec d'autres mots, d'une société qui n'est plus la norme. La façon dont on va attester de la foi chrétienne, je crois, compte beaucoup. Il y a plusieurs modèles, et Fabrice a très gentiment fait allusion au premier modèle historique dans l'histoire de ces années post-conciliaires dans l'Église catholique. Le premier modèle, c'était celui de l'enfouissement. C'est bien qu'on est un petit peu enfoui ici, mais n'y voyez pas une allusion à la situation présente. Et c'est vrai que je dirige un journal qui, à une époque, a pu accompagner cette théorie de l'enfouissement. Il ne fallait pas que les chrétiens soient trop visibles. Et donc, on ne devait pas brandir son étendard. Et donc, le mot catholique était susceptible d'être mis plus discrètement dans sa poche. Il est évident que l'enfouissement, c'est la disparition. Ça paraît aujourd'hui tellement de simple bon sens de le constater que c'est facile pour moi de le dire aujourd'hui, c'est facile pour nous tous de le penser. Certains le disaient à l'époque, ils avaient raison, mais ce modèle de l'enfouissement, de toute manière, est aujourd'hui un modèle totalement dépassé. La deuxième époque a été celle du surplomb. Puisqu'on était trop bas, on a essayé de se mettre un petit peu trop haut. C'est assez tentant aussi. C'est compréhensible comme réaction par rapport à cette tendance-là. On a vu quand même, autant le dire avec franchise, on a vu que ces modèles-là de reconquête de la société avaient montré leurs limites. Tous ceux qui sont arrivés en disant « Vous allez voir ce que vous allez voir, nous allons reconquérir des parts de marché, nous allons fabriquer des prêtres, nous allons... ils se sont bien trompés avant nous, nous allons effacer les erreurs du passé et regagner le terrain perdu », bien ça a donné aussi les légionnaires du Christ, ça a donné aussi un certain nombre d'abus dans l'Église. Et je crois que ce modèle-là est aujourd'hui lui aussi arrivé à bout de souffle. Et le modèle dont nous parle le nouveau pape, le pape François, dès sa première homélie à la chapelle Sixtine, c'est un autre modèle. Ce n'est évidemment plus le modèle de l'enfouissement. Ce n'est évidemment plus le modèle du surplomb. C'est le modèle de l'attestation. Ce qu'il appelle la confession. Confesser, confesser sa foi, être capable d'être donc ni en dessous, ni au-dessus, mais à la hauteur de la société dans laquelle nous sommes. Mon expérience personnelle, c'est que le christianisme, comme force d'attestation, aujourd'hui est attendu, légitime, pertinent, nécessaire. Force d'attestation, c'est-à-dire dire ce que nous croyons. L'époque dans laquelle on devait se taire, cette époque-là est terminée, il faut parler. Et je dirais que c'est le moindre des choses, c'est le service minimum qu'on peut rendre dans notre société. Être capable d'être présent, de parler, oui, nous avons quelque chose à dire. Moi, dans le cadre de la société française, on a vite fait de vous jeter à la figure la question de la laïcité, qui est un prétexte, en fait, pour interdire aux chrétiens de parler. Moi, je demande comme citoyen le droit à la parole, comme n'importe quel citoyen. Je ne demande pas plus, pas de privilèges, je ne demande pas moins. Je n'accepte pas qu'on me donne moins. Je veux être considéré comme n'importe quel citoyen, et étant chrétien, j'ai le droit de m'exprimer. Et l'expérience montre que finalement, cette muraille-là est une muraille de papier, et qu'à partir du moment où on se prononce pour un christianisme attestataire, il y a énormément de possibilités qui s'ouvrent. Notre société a besoin de chrétiens qui attestent, c'est-à-dire qui soient présents au grand carrefour de l'existence. La naissance, les questions de vie, l'amour, la mort. Ça s'arrête, je dirais, à peu près là, mais c'est évidemment l'essentiel. On n'a pas besoin des chrétiens s'ils ne sont pas là où se joue l'essentiel de la vie humaine. Chaque fois que le christianisme, que les chrétiens attestent personnellement de leur foi sur ce terrain-là, des champs nouveaux s'ouvrent. Et c'est ça le christianisme attestataire. Évidemment, en étant attestataire, on est un petit peu contestataire. Les deux vont ensemble. Ce christianisme attestataire, j'ai essayé d'en définir quelques contours. Et je me suis intéressé à la question des valeurs dont il pouvait être porteur et qui sont des valeurs critiques par rapport à cette société qui est une société libertaire. Quand j'ai parlé du marché, j'aurais pu parler de société libertaire, en fait. C'est la même chose dans mon esprit. Les valeurs critiques du christianisme dans la société libertaire, où peut-on les trouver ? Alors, vous allez me dire, déjà, le mot valeur, c'est un mot un petit peu... Si Fabrice reprenait la parole, il commencerait à me démolir le mot valeur. Heureusement, c'est moi qui ai le micro, donc je peux en profiter. Mais je me suis protégé de toute manière de la critique en ajoutant à ce mot valeur le mot faible. Valeur faible. La chance du christianisme d'aujourd'hui, c'est d'être dans cette condition de marginalité, d'être porteur de valeurs qui sont des valeurs universelles, qui ne sont pas des valeurs de conquête ou de reconquête, qui sont des valeurs profondément évangéliques et qui sont en même temps des valeurs partagées par tout homme, qu'il soit chrétien ou qu'il ne soit pas chrétien. Il me semble que les premiers pas de ce nouveau pape et déjà la renonciation de Benoît XVI montrent quel peut être le contour au fond de ces valeurs. Ces valeurs, ça pourrait être la fragilité. Ces valeurs, ça pourrait être la pauvreté, pauvreté au sens pauvreté vécue, pauvreté évangélique. Ces valeurs, ça pourrait être la chasteté. Alors des valeurs qui ne sont pas donc toutes cotées à la bourse des valeurs, là encore. Mais qui sont des valeurs, je crois, correspondant à des besoins très profonds de l'être humain, des valeurs de toutes les civilisations, des valeurs d'ailleurs présentes dans toutes les religions, mais évidemment, qui prennent une vie particulière à travers la foi chrétienne. La renonciation de Benoît XVI, cet acte qui consiste à assumer une certaine pauvreté, une certaine fragilité, et l'assumer au sommet du pouvoir, c'est un acte, c'est l'acte fort d'une minorité créative. Voilà un homme qui dirige 1,2 milliard de catholiques et qui est capable de dire « Maintenant, je n'ai plus la force ». C'est une critique radicale du pouvoir. C'est une critique radicale du pouvoir dans l'Église. C'est une critique radicale de tout pouvoir que nous pouvons exercer. Et c'est donc un message qui est profondément évangélique. C'est une subversion complète du rapport au pouvoir. Et il est assez singulier de voir que un pape aussi différent que le pape François succède à Benoît XVI, en apparence pour faire à peu près le contraire, on le voit en particulier dans le domaine de la liturgie, et pourtant il est complètement dans la continuité, justement là-dessus, de la renonciation de Benoît XVI à cet acte, à ces premiers mots du pape François, à ce premier mot, à ce seul mot qui est le mot François, qui renvoie aussitôt à la pauvreté, à la radicalité évangélique. On est de plein pied dans les valeurs faibles. Les valeurs faibles, ce ne sont pas donc des valeurs qui sont cotées à la bourse des valeurs, comme je vous disais, ce ne sont pas des valeurs de domination de la société, ce ne sont pas des valeurs de reconquête, ce sont des valeurs de service, ce sont des valeurs évangéliques. La principale de ces valeurs, peut-être d'ailleurs, c'est la gratuité, une notion complètement galvaudée dans notre société. La gratuité, évidemment, pour nous, s'enracine dans le sacrifice eucharistique, sinon ça n'a aucun sens, la gratuité du don. Alors, je ne ferai pas de théologie parce que je ne suis pas théologien, je ne ferai pas de philosophie, je me garderai de ce genre de choses, mais je voudrais juste voilà, vous faire remarquer que ces valeurs de gratuité, de chasteté, de fragilité, de ritualité sont des valeurs dont l'être humain a profondément besoin. Oui, de ritualité. Nous sommes dans une société qui croit pouvoir se passer de rites. Vous avez remarqué comme moi qu'elle ne s'en passe pas, elle les déplace, elle les laïcise, elle les paganise. Eh bien, maintenant, c'est la foi catholique, maintenant le caractère central de nos sacrements, maintenant notre enracinement eucharistique, maintenant cette flamme-là, parce que c'est le cœur non seulement de notre foi, mais c'est le cœur même de l'être humain. Et je pense que dans la grande crise de l'Occident que nous traversons, on a besoin de chrétiens qui maintiennent ces valeurs en attendant que d'autres puissent y accéder. Et c'est pourquoi je ne pense pas que nous soyons du tout... je vous disais que... en fait, vous avez compris que c'était une ruse quand je vous ai dit que le christianisme était mort. En réalité, ce que je veux dire, c'est que le christianisme commence. Et quand je dis qu'il commence, c'est pour dire qu'il a toujours commencé, qu'il commence dans chaque Eucharistie, et qu'il commence, il commence depuis le premier jour. Donc ce christianisme attestataire, ce christianisme de minorité créative, aujourd'hui va voir s'ouvrir, je crois, j'en suis convaincu, des possibilités absolument immenses. Et ce pontificat qui commence en est, à mon avis, le signe. Le message de radicalité évangélique qui tient en un mot touche immédiatement l'humanité tout entière. Et je dois d'ailleurs, enfin, je ne sais pas comment cette élection a été accueillie en Suisse, mais il me semble que l'accueil fait à ce message très simple a été immédiatement, planétairement positif. Parce que ce que les gens rejettent dans la foi chrétienne, dans le christianisme et chez les chrétiens, c'est quelque chose de très particulier qui ne posait pas problème autrefois, mais qui aujourd'hui pose problème. C'est le décalage entre la hauteur de la parole et, disons, le caractère pas toujours à la hauteur de ceux qui portent la parole. Et dans nos sociétés, il y a peut-être d'ailleurs une forme de puritanisme, on n'accepte plus ça. Et c'est pourquoi, dès que l'Église fait la morale, on l'attend au tournant. Et on ne la rate pas. Et d'une certaine façon, c'est normal. Aujourd'hui, le christianisme est attendu à condition d'être à la hauteur de la parole que l'on porte. Alors, d'ailleurs, Fabrice y faisait une allusion. D'ailleurs, évidemment, comme cette condition ne peut jamais être remplie, vous imaginez la difficulté de la tâche. Fabrice faisait allusion à mon métier de journaliste. C'est vrai que la première fois que je suis allé voir une vieille dame à la campagne pour l'expliquer, dans ma famille, pour l'expliquer que j'allais être journaliste, elle m'a dit, ben, tu vas en écrire des mensonges. Donc c'était sa définition du journalisme. Donc on n'est pas toujours à la hauteur de la parole. Voilà. D'une certaine façon, quand je prépare des éditos en vue d'un événement qui n'a pas encore eu lieu, je suis évidemment dans l'imposture et dans le mensonge. Mais donc, vous avez remarqué que l'Esprit Saint s'était chargé d'apporter un démenti à nos petites falsifications. Le christianisme est attendu, mais pour qu'il soit audible, il faut qu'il soit crédible. On pourrait le dire comme ça. Pour que le christianisme soit audible, il faut être crédible. Et pour être crédible, il faut. Enfin, la façon dont on se comporte tient. Importe autant que le fond de ce qu'on dit. Pour le dire d'une autre façon, je pense que le christianisme d'aujourd'hui est un christianisme qui commence par l'écoute. Avoir un cœur qui écoute. Prête l'oreille de ton cœur, hein, c'est le prologue de la règle de Saint Benoît. Prêter l'oreille de son cœur. Avant d'être, c'est pour ça que je ne crois pas à un christianisme qui sera en surplomb de la société et qui ferait depuis en haut la morale en disant faites comme ci, faites comme ça, le mariage gay c'est pas bien, etc. Ce n'est pas comme ça que ça se passe dans la société d'aujourd'hui. Une autorité qui est en surplomb n'est pas une autorité dont la parole peut être entendue. Je peux vous dire que je m'en aperçois assez dans mon boulot de directeur de journal. On s'en aperçoit dans tous les niveaux de la société, en famille, un enseignant dans sa salle de classe. Aujourd'hui, une autorité, c'est quelque chose qui se renégocie de manière permanente en fonction de la crédibilité que l'on peut avoir par son comportement. Alors, c'est très compliqué. C'est très compliqué. C'est pour ça que c'est beaucoup plus difficile d'être parent, que c'est beaucoup plus difficile d'être prof, que c'est beaucoup plus difficile d'être un homme politique aussi, et que c'est beaucoup plus difficile d'être pape, hein, que ce ne l'était probablement il y a 50 ans. Parce que l'autorité est constamment jugée, non pas sur ce qu'elle dit, mais sur le décalage entre ce qu'elle dit et ce qu'elle est. Donc ce christianisme attestataire devra, je crois, être très soucieux de son attitude. Attitude qui est d'abord celle d'un cœur qui écoute. Donc être capable de prêter l'oreille de son cœur. Un cœur qui écoute, et évidemment, il faut aussi une main qui agit, c'est évident, mais d'abord un cœur qui écoute. Voilà, je voulais vous inviter à ce christianisme-là, qui est un christianisme, je crois, très joyeux, et qui va redonner au monde accès à une part de lui-même qui lui est interdite. Parce qu'au fond, je voudrais terminer par là, ce christianisme qui commence. Est en situation d'ouvrir une fenêtre qui a été bouchée. Et cette fenêtre, c'est la fenêtre sur l'invisible. Nous sommes dans une société dans laquelle on étouffe, en fait. Cet individu dont je vous parlais, qui est libre, qui est tout seul, il est très libre et il est très seul. Et il ne peut plus respirer. Parce que le seul horizon qu'on lui donne, c'est celui que j'évoquais tout à l'heure. Jouissez et disparaissez. Disparaissez le plus proprement, le plus vite possible. C'est évidemment le suicide assisté ou l'euthanasie. Jouissez, ce n'est pas un impératif d'ailleurs moins atroce que disparaissez. C'est un impératif absolument tyrannique. Et donc, on a l'impression que notre horizon s'élargit sans cesse, de nouveaux outils, de nouvelles conquêtes, de nouveaux moyens techniques. Mais en réalité, notre horizon s'appauvrit. Il s'appauvrit de plus en plus, il se referme de plus en plus sur le matérialisme de cette société libertaire. Le christianisme est là pour ouvrir la fenêtre sur l'invisible. Alors c'est vrai que c'est le rôle de la poésie, c'est le rôle de la liturgie, c'est la raison pour laquelle d'ailleurs je ne fais pas tellement de différence entre ces deux mots, c'est le rôle de l'art. En général, et je crois que c'est aussi l'idée de Philanthropos de mêler ces différentes sphères de l'activité humaine pour rouvrir cette fenêtre sur l'invisible. Alors moi, je voudrais juste vous dire cette idée toute simple. Je ne pense pas que l'homme puisse vivre sans que cette fenêtre soit ouverte. Donc voilà pourquoi je suis extrêmement optimiste sur l'avenir de notre culture, parce que nécessairement, cette fenêtre doit s'ouvrir à nouveau. Et elle n'est pas d'ailleurs complètement fermée dans notre société, mais nous devons être là pour l'ouvrir. Je crois que le monde nous attend pour ouvrir cette fenêtre, pour attester de ce que nous croyons, pour être, à condition évidemment que nous soyons à la hauteur de notre parole, et pour, je dirais, proposer que cette fenêtre soit ouverte sur la contemplation du visage du Christ, bien évidemment. Je vous remercie.